Alors c'est dans la joie, la bonne humeur et la puissance que nous allons écouter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un plaisir d'être avec vous, comme toujours. Et ce matin, je voulais commencer par vous raconter une histoire. Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait ce dessin animé « Père Castor, raconte-nous une histoire ». Je vais faire Père Castor ce matin. J'ai toujours rêvé de faire ça. Non, mais je vais vous lire une histoire. Je vais vous lire une histoire que j'ai récupérée qui va bien introduire ce qu'on va voir juste après, qui va donner une impulsion sur ce qu'on va voir juste après. Je vous laisse imaginer un petit peu cette histoire dans votre tête. Et puis on en reparle juste après. Ça vous va? Donc cette histoire, elle nous mène au milieu des années 1900, dans un petit village français. C'est ici que naquit Paul, un jeune garçon de bonne famille. Très jeune, il était curieux et intéressé. Et en plus d'être un bon élève à l'école, il était un enfant de cœur engagé dans la paroisse du village, la paroisse du Père François, du Père Ferrand, pardon. Très vite, il développa cependant une passion pour les mathématiques. C'est pour ça que j'aime bien ce petit Paul. Et se consacra entièrement à ses études, très prenantes de banquier. Il rêvait d'être banquier. Un métier qu'il eut l'honneur ensuite de mener dans la banque de son propre village. Là-bas, Paul était un homme qui n'avait pas la même cote auprès de tous les villageois. Ceux qui avaient beaucoup d'argent l'aimaient, ceux qui en avaient moins, pas forcément. Il avait en tout cas la réputation d'être très exigeant avec lui-même et les autres, presque un perfectionniste maladif. Ceci dit, il était reconnu par sa direction pour bien faire son travail. Elle disait de lui qu'il était doué et du coup il gagnait bien sa vie. Mais il en voulait toujours plus. Alors dans un souci d'aller toujours plus loin et de gagner toujours plus, il prospéra en investissement notamment sur les marchés financiers. Il consacrait sa vie, ses jours, ses nuits, tout son temps à son travail, et un jour, malheureusement, la sentence finit par tomber, comme une évidence. Usé à bout de force, sur les rotules, il finit par tomber en dépression. Et cette dépression l'amena à tout perdre ce qu'il avait construit et gagné tout au long de sa vie, son travail, ses finances, mais aussi ses biens et sa famille, puisque son épouse le quitta. Une dégringolade si brutale qu'il finit même par se retrouver à la rue, seul. Au fond du trou, il se remémora alors tout son parcours. Mais qu'est-ce qui m'a amené ici? Au cours de celui-ci, il se souvint alors des paroles du Père Ferrand durant son enfance. Ce même Père Ferrand qui lui avait parlé de l'aumône. Tiens, l'aumône. C'est ainsi qu'il décida de se poster à l'entrée du village pour compter sur la bonté des villageois afin de rebondir. C'était un jour d'hiver et alors qu'il se trouvait à genoux au bord de la route, une première personne s'arrêta à sa hauteur. C'était Monsieur Jean, le boulanger du village. Ce dernier reconnut le banquier, celui-là même qui, quelques années précédentes, lui avait refusé un crédit. Alors, monsieur le banquier, qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites l'aumône en plus? Attendez, je regarde. Désolé, j'ai rien à vous donner. Ah si, 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 j'ai quelques paroles, quelques mots pour vous. Vous savez, ces mêmes mots que vous m'aviez donnés à l'époque, là, quand on s'était vu, que j'étais venu vous demander un crédit. Je suis désolé, monsieur. Désolé pour vous, j'ai rien, je peux rien faire, mais bon courage. Et Monsieur Jean s'en alla à sa boulangerie. Quelques minutes plus tard, une autre voiture s'arrêta à son tour près de Paul. C'était une grosse berline. Toujours à genoux devant les panneaux du village, Paul leva la tête et regarda l'homme qui ouvrit la fenêtre. Le conducteur reconnut son ancien banquier, ah, celui-là même qui l'avait aidé à prospérer dans les affaires. Il ouvrit donc sa fenêtre et lui dit: Eh bien, monsieur le banquier, qu'est-ce que vous faites ici? À faire l'aumône en plus? Attendez. Il doit bien me rester un billet de 500 euros quelque part. L'homme riche saisit alors un billet et, de peur d'attraper froid, le jeta rapidement par sa fenêtre. Et referma la fenêtre et repartit. Le billet pris dans le vent s'envola et Monsieur Paul, sur les genoux, n'eut même pas le temps de se lever pour le récupérer, frigorifié. Le billet s'envola loin, très loin, qu'il ne put l'attraper. Triste, frustré, il s'en prit alors à Dieu. Mais Dieu, où est ce Dieu que le Père Ferrand parlait? Où est ce Dieu qui est là pour moi? Que fait-il réellement? M'entend-il? Me parle-t-il? M'aide-t-il? Non! La nuit passa et le lendemain matin, le Père Ferrand, curé du village, se réveilla. Comme chaque jour, il avait l'habitude de commencer sa journée en allant acheter son pain à la boulangerie de Monsieur Jean, ce pain qui allait accompagner sa soupe du midi. Sur le chemin, alors qu'il venait d'acheter son pain, il eut la surprise de voir un billet de 500 euros s'envoler et tomber à ses pieds. Il le saisit en disant « Tiens, quel heureux hasard !» Il continua sa course et en s'approchant à l'entrée du village, il tomba nez à nez avec Paul, abrité sous un pont. Il reconnut alors cet enfant de cœur qui avait bien grandi. Mais cet enfant de cœur qu'il chérissait tant à l'époque, et pris de compassion pour lui, il l'invita à venir manger le repas du midi. Monsieur Paul eut donc l'occasion de boire une bonne soupe et de manger du bon pain du boulanger Monsieur Jean. Et après l'avoir laissé parler, manger et se réchauffer, le père Ferrand fut touché et lui donna alors le billet de 500 euros qu'il avait trouvé par hasard au sol. Après tout, si celui-ci était venu du hasard, il dit, si le hasard se cache parfois sous le nom de Dieu, ce billet était sans doute pour toi, Paul, ce petit Paul devenu bien grand, dit le curé. Cela fut alors le point de départ d'un nouveau jour et d'un renouveau pour Paul. En sortant de l'église, en sortant du lieu, il prit alors la décision de redresser la barre. Il retrouva au fur et à mesure des années une vie décente. Surtout, il se souvint toujours de ce que le père Ferrand avait fait pour lui ce jour-là et de ce qu'il lui avait dit. Dieu ne t'abandonne jamais et il te redonne une nouvelle chance. Monsieur Paul conclura en disant que, à ceux qui voulaient bien l'entendre jusqu'à la fin de sa vie, cette phrase qui deviendra alors le leitmotiv de sa vie, on peut lancer le PowerPoint, on va l'afficher. Tu as beau être sur les rotules, seule l'action de te mettre à genoux devant Dieu te permettra de te relever. Voilà. Belle histoire, n'est-ce pas? J'espère qu'elle vous inspire, en tout cas. Vous savez, j'aime beaucoup cette histoire, surtout, on est dans une société aujourd'hui, il faut toujours faire plus. Il faut porter plus. Il faut se faire voir plus. Il faut gagner plus. Il faut vivre toujours plus. Vous savez, à l'heure des réseaux sociaux en plus. Il faut montrer plus. Et dans cette société comme ça, qui vit à mille à l'heure, j'aime bien cette histoire parce qu'elle nous montre, même si elle est assez ancienne, de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que des fois, quand on veut trop porter, trop faire, on finit sur les rotules. Et vous savez, récemment, je lisais une étude de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, qui disait qu'en 2021, ils ont fait une enquête, apparemment, il y aurait 3,2 millions de Français actifs, 17% de la population active, qui présenteraient un risque de faire un burn-out. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de burn-out, c'est un peu le mot de ce siècle. Le mot M-A-U-X, mais c'est aussi le mot un peu qui est un peu à la bouche, c'est quand on supporte trop, on est sur les rotules, on n'en peut plus. Et en lisant cette étude, je me suis dit, bon ça va Seigneur, je te connais dans ma vie, donc je suis préservé. Moi, je n'aurai pas de burn-out. Et le Seigneur m'a tout de suite repris, il m'a dit, Geoffrey, méfie-toi. Il n'est pas noté dans cette étude que 3,2 millions de Français actifs, non chrétiens, présentaient un risque. C'est 3,2 millions entiers. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est à l'abri de ce genre de choses. Et je crois que le Seigneur, ce matin, veut aussi nous alerter pour cela. Il veut aussi nous parler là-dessus. Et ça sera un peu le sens du message. J'aime bien cette expression qui dit, qui est un peu vieille, comme Mathusalem, d'être sur les rotules. Elle remonte bien l'image. Quand on est à bout, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'être à bout, on porte tellement quelque chose sur nos épaules qu'on est à genoux, qu'on est incapable de se relever, tellement c'est lourd ce qu'on porte. Et le Seigneur ce matin a envie de dire, je suis celui qui ôte, je suis celui qui relève. Alors si ce matin tu as la sensation d'être sur les rotules, le Seigneur veut te relever. Et comment? Eh bien simplement en changer l'expression, parce que j'aime bien cette expression, je vous l'ai dit, être sur les rotules, je l'aime bien pour l'image. Mais être sur les rotules, être sur les genoux, finalement, il suffit de changer deux mots, d'enlever sur les et de remplacer par à, et on passe de être sur les genoux à être à genoux. Et là, ça change tout, le sens est totalement différent. Surtout, cette expression être à genoux, on la retrouve dans la Bible une trentaine de fois. Par exemple, dans Éphésiens 3,14, il est dit « Fléchissons le genou, mettons-nous à genoux devant l'Éternel, notre Créateur ». Et autant être sur les rotules, ça donne l'image de quelque chose, c'est lourd, ça va être compliqué, on va jamais s'en sortir. Autant fléchir le genou devant l'Éternel, notre Créateur, ça montre quelque chose de tellement gracieux, beau, qu'on a la sensation que derrière quelque chose de puissant va se fournir. Ce matin, le titre de la cette prédication de ce temps sera « Sur ou à genoux ?» Et toi ce matin, es-tu plutôt sûr? As-tu plutôt l'habitude d'être sur les rotules ou es-tu plutôt quelqu'un qui a l'habitude d'être à genoux devant ton Dieu? Et surtout, est-ce que l'un n'empêcherait pas l'autre? Est-ce que finalement, quand on est trop sur les rotules, ça nous empêche d'être à genoux devant Dieu? Et inversement, si on était peut-être un peu plus à genoux devant notre Dieu, est-ce qu'on serait un peu moins sur les rotules? Voyez un peu dans les deux sens. J'ai mis cette photo parce que j'aime beaucoup Gaël, mon fils, le tennisman, et parce qu'il a toujours des positions académiques un peu bizarres. On ne sait pas s'il est sur ou à genoux, là. C'est un peu bizarre, hein, n'est-ce pas? Et pour illustrer ça, ce matin, je voulais prendre une histoire. Et je me dis, Seigneur, comment je vais faire pour trouver une histoire, pas simplement celle que je vous ai racontée, mais une histoire dans ta parole, où on pourrait avoir, ce serait génial Seigneur, une personne qui est sur les rotules et une personne à côté qui est à genoux. Et qu'on puisse comparer, voir. Je dis, ça n'existe pas dans la Bible. Mais la Bible est un livre qui recèle de trésors. Amen. J'espère que vous le voyez comme ça, parce que sinon je vois vos têtes. Vous dites, il est perché, il est sur une autre planète, Geoffrey. Eh bien oui, figurez-vous qu'il y a une histoire incroyable qui ne fait que 4 versets, mais dans laquelle on peut ressortir tout ça, où dans l'Évangile, donc dans le Nouveau Testament, Jésus, en plus, parfait Jésus, est le témoin d'une scène où on a 2 femmes. L'une est sur les rotules, l'autre est à genoux. Et Jésus est témoin de cette scène et il participe à cela en conseillant l'une ou l'autre. Ces 2 femmes, peut-être que ça va vous parler, c'est Marthe et Marie. Je vous propose de relire cette histoire ensemble, on va la regarder et puis on en reparle juste après. Ça vous va? Sûr? Bon, ça va. Allons-y. Donc Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant mise à genoux près du Seigneur, l'écoutait parler. Marthe, très occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, mais tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. » Je ne sais pas si vous voyez un peu le parallèle. On peut y aller. Alors, quelque chose, 4 points à retenir peut-être, des choses que l'on peut appliquer à notre propre vie. Le premier enseignement de cette histoire, je crois, c'est que l'on voit ici que Marthe est sur les rotules. Elle est à bout. À bout devant une organisation d'une telle réception de prestige, elle reçoit quand même Jésus dans sa maison. Elle se fixe des exigences qui la font craquer à un moment donné. J'imagine un moment Marthe. C'était pas comme aujourd'hui, on passait pas un petit coup de fil, un petit SMS, tu viens manger à la maison demain? Non, non, elle voit Jésus arriver dans le village, Jésus qui toque à la maison, elle ouvre, punaise, elle a rien préparé. Et je crois que si Jésus a choisi d'aller chez Marthe, c'est parce qu'il savait aussi que certainement Marthe était une hôte de prestige, elle aussi. Du moins qu'elle savait très bien recevoir à sa maison. Et du coup, Marthe a pris cela à cœur, elle s'est dit, je vais préparer quelque chose d'exceptionnel, c'est Jésus qui est quand même ici. Et elle s'est fixée des exigences de dingue. Et je pense qu'elle était incapable finalement de répondre à ces exigences. Et du coup, à un moment donné, elle était à bout, sur les rotules. Elle a craqué. Et ça nous arrive tous. Être sur les rotules, vous savez, ça dépend souvent de pression extérieure. Mais parfois, ça peut aussi dépendre de nous. À cause d'une trop forte exigence avec nous-mêmes ou notre besoin de tout contrôler. Ici, Marthe avait tellement envie de bien recevoir Jésus, de bien le nourrir, qu'elle en a oublié l'essentiel. L'essentiel n'était peut-être pas de bien le nourrir, mais de se nourrir elle-même. Jésus était là, et elle en a oublié cela. Et vous savez, moi, quand je vois ça, ça me rappelle mon mariage. Vous êtes peut-être déjà marié, mais quand on prépare un mariage, c'est un truc de fou. C'est des mois de préparation, on se fixe des exigences de dingue, on veut que tout soit parfait, bien millimétré, et le jour J, on a tellement tout bien préparé, que quand ça arrive, en fait, on n'en profite pas vraiment. On est encore là à regarder si tout se passe bien au final. Et nous, c'est ce qu'on a eu avec Pauline. On a tout bien organisé, puis le soir, on est arrivé, on s'est mis dans notre lit, on a pleuré. On s'est dit, c'est déjà passé, on n'a même pas profité, en fait. Tous ces mois de préparation pour rien. Et en fait, on était un peu comme Marthe. Des fois, vous savez, on prépare tout, on est tout dans l'organisationnel, et on en oublie l'essentiel. C'est de profiter des bons moments, des plaisirs que Dieu nous donne. Et là, ici, Jésus donnait un plaisir à Marthe. Il était présent dans sa maison. Elle en a oublié cela parce qu'elle voulait que tout soit bien organisé autour. Vous savez, moi, on dit, ça me fait penser à ça, on dit de moi que je suis un gentil. Je ne sais jamais ce que ça veut dire. Parce que des fois, c'est vrai, on dit, Geoffrey, t'es gentil. Mais je suis tellement gentil des fois que je ne sais pas dire non. Vous savez, je ne sais pas dire non. Et du coup, je prends plein de choses. Je dis oui, 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 parce que je prends tout à cœur. Moi, quand on me propose quelque chose, ça me touche. Je me dis, on pense à moi, donc je prends tout à cœur. Mais à un moment donné, je suis tellement dans tout, que le Seigneur m'a repris récemment. Il m'a dit, Geoffrey, tu prends tellement de choses que tu en oublies l'essentiel parfois. T'en oublies l'essentiel. Et vous savez, c'est là sera le deuxième enseignement ici qu'on va avoir. Je crois que Jésus nous appelle, quand on est sur les rotules aussi, à faire des priorités dans nos vies. Et ici, alors que Marthe, c'est le deuxième enseignement, est sur les rotules, Jésus l'invite à reconsidérer ses priorités. C'est au verset 42. Qu'est-ce qui est le plus important? Au verset 42, il est dit, « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. » Et vous savez, parfois, si nous sommes sur les rotules, c'est parce que nous surchargeons notre emploi du temps. Et je crois que le Seigneur ce matin veut nous inviter à faire le tri entre ce qui est prioritaire ou pas. En tout cas, le Seigneur m'a interpellé sur ça ces derniers temps, moi-même déjà à l'appliquer sur ma propre vie. Donc si je vous dis non, ce n'est pas que je ne vous aime pas. D'accord? C'est important, je voulais le dire, je voulais passer le message. C'est gentil quand même. Vous savez, dans cette, comme je vous l'ai dit, dans cette culture, cette génération de réseaux sociaux, on a la culture du faire. Il faut faire, faire, faire. C'est bien, et montrer ce qu'on fait. Mais il ne faut pas qu'on en oublie de laisser Jésus en tête de notre liste tous les jours. Moi, quand j'étais étudiant, c'était bien. C'était une vie où aussi on avait moins de choses à gérer. On avait que nos études. On était chez papa, maman. C'était bien. Mais quand c'était les moments de révision, et Pauline pourrait vous en parler, moi j'avais l'habitude de faire mes petites listes. J'aimais bien. Le matin, je me levais, j'ai dit, allez, je fais ma liste de tout ce que je dois faire. Et à la fin de la journée, j'étais content quand ma liste, elle était faite. Et puis j'ai voulu garder cette habitude. Ça m'est devenu une habitude de vie. Et puis, encore récemment, je faisais mes petites listes. Le matin. Pauline, elle le sait. Sauf que ça a un peu changé. Ma vie a changé. J'ai plus de choses à gérer. J'en ai trois, notamment maintenant. Et arrivé le soir, quand je voyais que ma liste n'était pas faite, ben, qu'est-ce qui se passait? On pourrait lui dire, ça fait moins Geoffrey parfait tout de suite, pour reprendre ton expression. Je devenais irritable. Eh oui, je devenais irritable. Et je disais, ah, oh, ça m'énerve et tout ça. Et puis quand je voyais que la liste était faite, oh, qu'est-ce que je mettais de côté en premier, à votre avis, en priorité? Ben, passer un temps avec Dieu. Oh, je le ferai ce soir, je le ferai toujours, toujours. Et en fait, le soir, on s'endort, ou alors on prie en s'endormant. Oh, ça ne sert plus à rien. J'ai un ami avec qui, peut-être que vous connaissez, Daouda, avec qui j'ai écrit un livre, qui me disait encore hier, et ça m'a impacté. Je me suis dit, des fois, le Seigneur, il nous envoie des petits messages. Je disais, punaise, t'arrêtes pas, toi. Je te vois, t'es tout le temps en route, etc. Il me dit, ouais, mais Geoffrey, dis, regarde, c'est mathématique, ça va te parler. Peut-être que ça va vous parler. Une journée fait 24 heures. Bon, sur les 24 heures, si on compte 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, ça fait 16 heures, il n'en reste plus que 8. Sur ces 8 heures, il y a des choses informelles qu'on doit faire, conduire les enfants, aller aux toilettes, se laver, manger, t'enlèves la moitié, il te reste 4 heures. Il dit, qu'est-ce que tu fais de ces 4 heures? Il m'a posé la question à moi, alors que c'était moi à la base qui lui dis, comment tu fais tes journées, t'es tout le temps. Et c'est vrai. En fond, on a l'impression d'avoir toujours, mais quand on regarde mathématiquement, on a forcément du temps. Qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps? Qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce qui est notre priorité? Alors en ce moment, il y a la Coupe du Monde. Je suis d'accord. Mais quand même, qu'est-ce qu'on fait? Où est la place du Seigneur là-dedans? Je suis sûr qu'on peut tous dégager du temps pour le Seigneur. En tout cas, ici, c'est passer du temps avec Dieu. C'est la chose qui est nécessaire et c'est la chose que Marie a choisie, comme il est dit dans le verset 42. N'oublions pas de prendre un temps avec Dieu tous les jours. Commençons par cela, c'est ce que je disais dans mon dernier message, si vous vous souvenez, c'était il y a quelque temps, mais à l'aurore, quand le soleil se lève, c'est là où le Seigneur est plus sensible encore. On continue, troisième enseignement. Je vois qu'il y en a qui sont au taquet. Troisième enseignement de ce message, une fois sur les rotules et dépassé, Marthe, elle recherche une coupable. Et la coupable toute trouvée, c'est sa sœur Marie. Bah oui, elle n'a pas la même attitude qu'elle. Elle a l'air un peu coucoul, comme on dit. Hein. Elle décide d'écouter le Seigneur, elle s'assoit, alors qu'il y a des choses à faire. Et elle prend le Seigneur à témoin, en plus. Elle lui dit, Seigneur, ça ne te fait rien de voir que ma sœur, elle ne fait rien alors que moi je suis en galère? Dis-lui quelque chose. Parfois, vous savez, lorsque nous sommes sur les rotules, nous serions prêts à accuser n'importe qui. Bah oui, finalement, il faut trouver un coupable. Si j'en suis à ce point-là, ce n'est pas de ma faute. Et même le Seigneur, il y passe parfois. À tort ou à raison, à votre avis? Ben forcément à tort. Parce que notre nature humaine, elle nous amène toujours à voir la paille qui est dans l'œil de son voisin plutôt que la poudre qui est dans la nôtre, n'est-ce pas? Et quand tout va bien, tout va bien, tout le monde est beau. Mais quand on est un peu en difficulté, c'est tellement plus facile de pointer du doigt ce qui ne va pas chez l'autre et dire que c'est lui le fautif. Je crois que le Seigneur, ce matin, veut nous dire aussi et nous pousser des fois à nous remettre en question. Si nous ne sommes à bout, est-ce que finalement, on n'aurait pas une part aussi de responsabilité? Vous savez, J'ai vécu ça, moi j'ai vraiment découvert ça pour petit témoignage récemment, quand il y a eu le week-end de guérison, c'était avec David qui est venu. On est venu, c'était un week-end bien chargé pour Dieu, mais c'est vrai que tout s'accélère. On est venu ici le samedi, etc. Et puis en fait, dans la semaine qui précède, le Seigneur des fois nous met des petites pistes. J'ai une collègue au travail qui me dit, écoute, on parle comme ça en salle de prof, elle me dit, tu sais, Geoffrey, ça va pas, je vois, elle était en béquille, tout ça, elle dit, ça va pas. Ma cheville, ça fait des années que je traîne ça. Je sais pas. Mais elle dit, mais à la limite, moi, c'est pas grave. Mais elle dit, mon fils, que j'avais en classe, elle dit, depuis un mois, il fait des crises d'épilepsie. Elle dit, je suis démunie, je sais pas quoi faire. Toutes les semaines, il en fait une. Oh. Je dis, moi, punaise, ça bouillait. Je dis, punaise, je parle de Dieu, je parle pas de Dieu. Je savais pas. Vous savez, c'est toujours délicat. Comme ça, on est là. Je dis, ah, donc, je faisais le chrétien qui avait de la compassion. J'écoutais, mais je passais pas à Dieu. Et puis on vient ici le samedi, c'était chargé émotionnellement aussi, parce qu'on avait Alix, etc. Il s'est passé beaucoup de choses. Et puis le soir, je dis, Seigneur, punaise, j'avais cette image de ma collègue avec son fils, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je dis, je peux pas rester sans rien faire, là, tu me tends une perche énorme. Et du coup, je décide d'envoyer un SMS à ma collègue. Je dis, voilà, je t'explique. J'attaque l'angle facile. Mon père est pasteur, comme ça je le mets devant. Pas de risque. Il m'arrive de... Non, je vais à l'église et je dis, ce week-end, on a quelqu'un qui a un don de guérison qui vient. Et je dis, voilà, tu prends ça comme tu veux, mais je dis, si tu veux, viens demain avec ton fils. Et elle m'a répondu du tac au tac, oui, je serai présente. C'est où ? Oh. Bon, je dis, Seigneur, magnifique. Donc le dimanche matin se passe, vous étiez là peut-être ou pas, et à aucun moment elle s'est avancée. Parce que David aussi, elle s'est pas avancée. Maman, David a pris, il a dit, si vous pouvez être vous-même acteur de votre propre guérison, c'est votre foi qui fait. Donc il a pris une prière, il a prié. Il a dit, priez pour le mot, etc. Ce que vous souffrez. Donc je l'ai vu qu'elle avait prié. J'ai vu qu'elle a prié pour son fils. J'ai même pu prier pour son fils qui était mon élève en plus. Un peu situation. Voilà. En plus, j'avais fait de la guitare jour-là, le lendemain à l'école. Tout le monde savait que je faisais la guitare. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Mais, et puis, le lendemain, donc j'arrive à l'école, et puis je la vois. Et déjà, je la vois sans béquille. Oh. Et je la vois par contre qu'elle fuit. Je dis, mince, j'ai fait une bêtise, il y a un truc qui n'allait pas. Donc à un moment donné, je dis, j'essaie de briser la glace à la fin de la journée, je vais la voir. Je dis, ça va, depuis hier. Elle me dit, ouais. Elle dit, je suis troublée. Je dis, ah bon ? Elle dit, oui, j'ai prié, j'ai plus rien. Elle dit, regarde, je suis là sans béquille ce matin. Oh. Je dis, bah, c'est génial. Merci Seigneur. Et elle dit, et puis ben, pour mon fils, on verra, parce qu'elle dit, il n'en a pas fait de crise d'épilepsie, mais elle dit, mais du coup, ça m'encourage. Et puis, ben, se passe un mois, deux mois, toujours sans béquille. L'élève, je l'ai dans ma classe, pas de crise d'épilepsie. Et je dis, waouh, Seigneur, c'est dingue. Et puis, arrivent les vacances scolaires. Et à la rentrée, je la vois arriver en béquille. Et j'ai mon élève que je vois qui n'est pas absent. Je dis, mince. Et là, elle vient me voir le midi, et je dis, ben alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, écoute, hier, mon fils faisait son DM de maths, donc c'était ma faute, quoi. Et pendant son DM de maths, il a refait une crise d'épilepsie. Ça faisait deux mois qu'il n'en avait pas faite. Et à partir du moment où il a fait la crise d'épilepsie, j'ai eu mal à la cheville. Et moi, quand j'ai eu ça, je peux vous assurer, j'ai encore l'émotion à ce moment-là, j'avais envie de pleurer. À un tel point que je suis même allé dans ma classe et j'ai pleuré. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça ? Je voulais trouver un coupable. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi ? Et le Seigneur m'a repris à ce moment-là. Alors sur le coup, pas tout de suite. Parce que pour l'écouter, au début, on est tellement en colère qu'on dit, Seigneur, tu peux pas me faire ça en fait. C'est quoi ? Et le Seigneur m'a dit, pourquoi je peux pas te faire ça ? Pourquoi il peut pas arriver ça ? T'as peur pour ta réputation ? Tu cherches un coupable. Et toi, pose-toi la question. Qu'est-ce qui te dérange vraiment dans cette histoire ? C'est ta réputation ? Et waouh, j'ai pris une claque dans la figure, je me suis dit, bon Seigneur, c'est tout. Et puis en fait, j'ai pu reparler avec cette collègue. Elle reste impactée par ce qui s'est passé le dimanche. Alors peut-être que c'était une porte d'entrée, parce que régulièrement on parle de Dieu, mais c'était juste une porte d'entrée. En tout cas, elle sait qu'il s'est passé quelque chose. Et ma réputation en soi, même auprès d'elle, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Pour tout vous dire, même quand j'ai fait mon triathlon, là, cet été, elle s'est déplacée avec son fils en famille, venir me supporter. Ce qui est gentil. Donc pour vous dire, des fois, on pense des choses, on cherche des coupables, Seigneur, etc. Alors que des fois, c'est peut-être juste moi. Dans cette histoire, le Seigneur a su utiliser cette histoire pour mettre une claque et dire qu'est-ce qui compte dans ta vie, ta réputation ou ce que j'ai vraiment envie de faire dans le cœur des gens. Voilà, ça vous parle. Dernier enseignement. Bah écoutez, face à une Marie sur les rotules, Marthe, Jésus prend Marie en exemple. Celle-ci fait quoi ? Ben elle est à genoux près de lui et elle l'écoute. Amen. Eh oui, verset 42. Alors quand tu te sens sur les rotules, n'oublie pas que la clé peut-être que le Seigneur veut nous donner ce matin, c'est de prendre un temps de pause pour venir se ressourcer auprès du Père et écouter ce qu'il a à nous dire. Je pense que c'est très important. Finalement, j'ai noté ça, je ne savais pas si j'allais le dire. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mesdames. Si votre mari vous embête ce soir pour faire la vaisselle, dites-lui, non, non, moi je vais me mettre à genoux à côté de mon Dieu, fais-la à ma place. Oh, ça fait un peu, voilà. Mais je suis sûr que mesdames seraient contentes, ma femme va être contente. Enfin, nous, c'est le lave-vaisselle, mais c'est pas grave, gérer le lave-vaisselle. Sauf que je ne suis pas là ce soir. Donc, vous voyez, donc, c'est très bien. Ce sera demain. Non, je crois qu'ici, nous tenons, Seigneur nous donne une clé, une priorité dans notre vie. Je sais que c'est d'écouter le Seigneur. Tout passe par là. Être à l'écoute, prendre des temps d'écoute auprès du Seigneur. Alors, je sais que c'est pas simple de se dire, je vais écouter le Seigneur. Moi, je le vois en ce moment dans ma vie, parce que c'est vrai qu'on en a trois. Il y a le boulot. Même si je suis prof, je bosse quand même. Les enfants, tout plein de choses. Je me dis tout le temps, Seigneur, mais comment je peux faire pour t'écouter? Et puis, il y a d'autres choses aussi. Des fois, quand on se dit écouter le Seigneur, c'est bizarre. Je vais me mettre comme ça dans ma chambre et puis j'entends rien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bizarre comme concept. Non, simplement, regardez cette attitude de Marie. Elle s'est simplement mise à genoux et elle a pris ce qu'elle avait à prendre. Et ce matin, j'ai envie de dire, mettons-nous à genoux à côté de notre Dieu et prenons ce qu'il y a à prendre. C'est vraiment la clé. Il y a quelques années, je pense que c'était juste au moment entre le confinement, etc., au petit groupe à la maison, il y avait quelques personnes qui étaient présentes. On avait fait un petit exercice que j'aimerais qu'on puisse faire vraiment ensemble pour terminer ce temps. J'ai oublié un truc, mais c'est pas grave, ça me revient comme ça. On s'est dit, on voulait se mettre à l'écoute de Dieu. Et on se dit, mais se mettre à l'écoute de Dieu, moi je reçois pas des paroles comme certains peuvent recevoir, etc. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas envie de vous parler? Je pense que Dieu a envie de vous parler. Ce soir-là, on avait fait l'expérience de prier ensemble, de prendre un temps ensemble. On priait pour chacun des gens présents et on disait, au moment où on prie, il y a une personne qui priait, les autres on disait, mettez-vous à l'écoute. Mais simplement, des fois on a l'impression que ça va venir dans nos oreilles, mais à l'écoute de votre cœur. Et notez simplement un ou deux mots qui vous venaient à ce moment-là, au moment de la prière. Et en fait, juste derrière, on mettait en commun ce qui avait été reçu et on remarquait qu'en fait, il n'y avait que des similitudes dans tout ce qui était reçu. Ce qui, ça nous avait encouragé de fou. Tu te souviens, Rita, tu étais là, ça nous avait encouragé de dingue et ça encourageait la personne pour qui on priait. Ce matin, on va faire ce petit exercice, si vous voulez bien. Est-ce que ça vous dit? Ça n'engage rien. Alors, je sais qu'on est plus nombreux que dans un petit groupe. J'avais prévu à la base, normalement, mais en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas eu le temps de le faire. Priorité dans la vie. Je m'étais dit, il faut que je fasse, de prévoir des petits papiers pour que vous puissiez noter. Mais de toute façon, on n'a tous pas forcément un stylo. Par contre, on a tous un téléphone. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un temps sans téléphone au début. Où on va prendre un temps dans la louange, parce que je pense que la louange est une porte d'entrée dans ce que quand Dieu veut nous parler. Mon fils a envie de louer, vous l'entendez? Et on va prier, prendre un temps même d'écoute. Je vais juste prier, même moi. Et pendant la prière, écoutez le fond de votre cœur. Et je vais vous donner mon numéro de téléphone, et le mot que vous allez recevoir, vous me l'enverrez par SMS. Aujourd'hui ou maintenant ou aujourd'hui. Et on va faire un bilan. On fera un travail, on va prendre les mots et on va voir ce que le Seigneur a à nous dire. On le communiquera la semaine prochaine et la semaine prochaine, comme ça, on pourra dire « Alléluia !» commencer le culte, dire « Le Seigneur nous a parlé. » Amen. Amen. Ça va comme ça? C'est mieux que les petits papiers. Je vais prendre mon fils. Je vais prier avec mon fils.
C'est un homme orchestre.
Tidev disait la semaine dernière, avec Céline, disait « Organisation ». Au top, oui. Tu ferais un chemin, le dernier, c'est bien. Organisation jusqu'au bout. Il se dit, on est reparti pour une présentation. Lui, il se dit, ça y est, c'est reparti. Amen. Si vous voulez vraiment, voilà, inclinez votre tête et soyez vraiment à l'écoute de votre cœur. C'est peut-être un mot, une phrase, mais écoutez ce que le Seigneur a à vous dire. C'est la clé ce matin. Mettons-nous à genoux à côté de lui. Seigneur mon Dieu, je te loue, je t'honore et je te prie ce matin. Merci Seigneur, tout d'abord, pour qui tu es. Merci de t'être révélé à moi, Seigneur. Merci parce que en toi, j'ai découvert mon Seigneur et Sauveur. Et merci parce que tu m'as fait cette grâce, ce don gratuit, parce que je te reconnais de un, Seigneur, pardonner mes péchés, et deux, Seigneur, d'hériter la vie éternelle. Je suis ton enfant, tu l'as rappelé ce matin à travers ce chant, je suis enfant de Dieu. Et Seigneur, c'est en tant qu'enfant que je me présente à toi, tel un père, Seigneur. Je veux que tu me dises quelque chose, Seigneur, ce matin. Je veux que tu me parles sur mon cœur, que ce soit pour moi ou que ce soit pour ton assemblée, Seigneur. Mets des mots sur mon cœur qui pourront nous encourager tous. Parce que Seigneur, nous voulons faire cette démarche ce matin, c'est de nous mettre à genoux à côté de toi. Seigneur, nous voulons un instant quitter le train-train quotidien de nos vies, cette vie à mille à l'heure, cette vie où on a trop de choses à porter, à penser, à faire. Et Seigneur, prends-moi 5 minutes pour nous mettre près de toi, à genoux, comme Marie, et écouter ce que tu as à dire sur nos cœurs, Seigneur. Gloire te soit rendue pour qui tu es, Père. Que vraiment, Seigneur, on puisse prendre ce temps musical, faire le silence et ouvrir, Seigneur, notre cœur à toi, Père. Gloire te soit rendue, Jésus. Amen.